Bonsoir, le secrétaire général, faire le point sur la première séance de travail du sommet de l'OTAN et de répondre à des questions. Bonsoir, nous venons de conclure une réunion importante des 29 chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN. Nous avons eu des discussions. Nous avons certes des désaccords, mais le plus important, c'est que nous avons pris des décisions qui permettent à l'Alliance d'avancer et de se renforcer. Dans l'histoire de l'OTAN, nous avons connu des différends et nous avons toujours su les surmonter, encore et toujours. Car en fin de compte, nous sommes tous d'accord sur le fait que l'Europe et l'Amérique du Nord sont plus fortes et plus en sécurité lorsqu'elles sont ensemble. L'OTAN est positif pour l'Europe et pour l'Amérique du Nord. Donc nous avons décidé de renforcer la dissuasion et la défense de l'OTAN. Nous avons décidé de renforcer notre rôle dans la lutte contre le terrorisme et de partager de façon plus équitable le fardeau de notre sécurité. J'accueille favorablement plusieurs annonces des chefs d'État et de gouvernement concernant de nouvelles contributions à toute la gamme des missions et des initiatives de l'OTAN. Nous nous sommes d'accord sur une initiative de disponibilité opérationnelle, les 4x30. D'ici 2020, nous aurons 30 bataillons mécanisés, 30 escadrons aériens et 30 bâtiments de combat prêts à emploi dans un délai maximum de 30 jours. Nous avons également avalisé une actualisation importante de la structure de commandement de l'OTAN avec plus de 1200 nouveaux postes et de nouveaux commandements pour l'Atlantique en Norfolk, à Norfolk en Virginie, ainsi qu'un nouveau commandement pour le soutien de la logistique à Ulm en Allemagne. Grâce à ces décisions, nous aurons les bonnes forces au bon endroit au moment voulu, avec un niveau de disponibilité opérationnelle accru et une plus grande capacité à se renforcer. Mais nous sommes face à de nombreux défis qui brouillent les frontières entre la paix, la crise et le conflit. Aujourd'hui, donc, nous avons mis sur pied de nouvelles équipes de soutien à la lutte contre les pratiques hybrides. Les experts de l'OTAN sont prêts à déployer pour aider les alliés dans les domaines de la cyberdéfense, la contre-propagande et la sécurité énergétique. Par ailleurs, nous avons décidé de créer un nouveau centre d'opération cyber dans le cadre de notre structure de commandement renforcée. Et nous avons décidé de nous appuyer sur des capacités cyber nationales dans le cadre des missions et d'opérations. L'instabilité dans au Moyen-Orient et au Maghreb a un impact sur les alliés de l'OTAN. Nous souhaitons préserver nos avancées dans la lutte contre Daesh et empêcher un retour de Daesh. Ainsi, aujourd'hui, à la demande du gouvernement irakien, nous avons lancé une nouvelle mission de formation en Irak. Je salue le fait que le Canada a décidé de jouer le rôle de chef de file pour cette mission. Ce sera une mission non combattante qui implique une centaine de formateurs. Nous allons de plus établir des écoles et des académies militaires professionnelles pour les forces irakiennes. Aujourd'hui, nous avons de plus décidé d'accroître notre soutien à nos partenaires, la Jordanie et la Tunisie, afin de développer leur capacité à lutter contre le terrorisme. De plus, nous avons déclaré que notre pôle pour le Sud a atteint sa capacité opérationnelle complète. Cela nous permettra de répondre de façon plus efficace aux défis dans la région. Afin de nous munir contre ces défis, nous devons investir davantage et investir mieux dans le domaine de la défense. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, un partage du fardeau équitable au sein de l'Alliance. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut accroître les budgets de défense, il faut plus de capacités et plus de contributions aux missions et aux opérations. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous faisons des progrès. Pendant un quart de siècle, nombreux de nos pays ont réduit leur budget de défense de plusieurs milliards, alors qu'aujourd'hui, ils dépensent des milliards de plus. L'ensemble des alliés augmentent leur effort de défense. Cette année, 8 de nos pays se sont engagés à consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense et la majorité des alliés ont des plans pour ce faire d'ici 2024. L'année dernière, nous avons connu l'augmentation la plus importante en matière de dépenses de défense depuis la fin de la guerre froide. L'année dernière, nous nous sommes mis d'accord sur le fait de développer des plans nationaux pour le partage du fardeau. sur base des plans nationaux des alliés européens et le Canada. Nous nous attendons à 266 milliards de dollars américains de plus consacrés à la défense d'ici 2024. C'est très important. Cela comprend des milliards pour des capacités modernes du haut du spectre. Par ailleurs, nous renforçons nos contributions au déploiement de l'OTAN. Nous avons renversé la tendance, mais il faut faire davantage. Il s'agit de l'équité, il s'agit de la crédibilité et avant tout, il s'agit de la sécurité dans un monde moins prévisible. La porte de l'OTAN est ouverte et restera ouverte. Nous avons accueilli chaleureusement l'accord historique qui a été noué le mois dernier entre Athènes et Skopje. Aujourd'hui, nous nous sommes d'accord d'inviter le gouvernement à Skopje de commencer ses négociations d'adhésion. Une fois que toutes les procédures nationales auront été accomplies afin de finaliser cet accord sur le nom, ce pays deviendra le 30e pays membre de l'OTAN. Les décisions que nous avons prises aujourd'hui nous montrent que l'Europe et l'Amérique du Nord travaillent ensemble. L'OTAN fournit des réponses et nous sommes déterminés à faire en sorte que notre population d'un milliard de citoyens soit en sécurité. Sur ce, je suis prêt à répondre à vos questions. Première question, Wall Street Journal. Question, Robert Wall, du Wall Street Journal. Monsieur le secrétaire général, nous avons entendu avant le sommet que malgré ce défi des 2%, cet objectif des 2% ne serait pas suffisant et certains évoquent même un objectif encore plus ambitieux. Quelle est votre opinion? Est-ce que ce serait utile ou est-ce que finalement cela va nuire aux efforts de parvenir à l'objectif des 2%? Réponse. D'abord, il faut parvenir à cette barre des 2%. Il faut se concentrer là-dessus. C'est cela qui a été convenu. C'est cela qui est consacré dans l'engagement. Et la bonne nouvelle, c'est que nous progressons vers cet objectif. Lorsque nous avons pris cet engagement en 2014, il n'y avait que trois alliés qui consacraient 2% de leur PIB à la défense, alors que cette année, comme je l'ai dit, ce sont 8 alliés qui le font ou qui se sont engagés à le faire. La majorité des alliés ont présenté des plans pour y parvenir d'ici 2024. Il faut se concentrer là-dessus. Nous avons réussi à renforcer la tendance. Pendant des décennies, après la fin de la guerre froide, les alliés ont baissé leurs dépenses. Dans les années 1990, j'étais ministre des Finances en Norvège et en fait, j'ai fait un très bon travail pour réduire le budget de défense. Mais c'était une époque où les tensions baissaient alors que aujourd'hui, il y a de plus en plus de tensions. Donc, si nous avons réduit les budgets dans une époque de moins tendue, il faut pouvoir faire le contraire aujourd'hui. Deuxième question. Monsieur le secrétaire général, j'ai vu la déclaration. Vous avez cité la Roumanie comme étant l'un des meilleurs élèves en termes de cet objectif des 2%. La Roumanie demande aux alliés de renforcer la sécurité dans la région de la mer Noire. C'est autour de la mer Noire qu'il y a eu toutes ces agressions russes depuis 10 ans en Ukraine, en Géorgie. Donc, quelles sont les mesures qui ont été prises pour renforcer la sécurité dans la région de la mer Noire et quel sera le rôle de ce nouveau commandement terrestre qui sera créé en Roumanie, tel que cité dans la déclaration? J'accueille favorablement cette augmentation de l'effort de défense en Roumanie. C'est une nouvelle importante. Comme vous l'avez dit, la Roumanie, c'est l'un des pays qui a approuvé un budget qui, normalement, permet au pays de parvenir à cet objectif des 2% du PIB pour la défense. C'est un pas en avant majeur. Nous avons décidé de mettre en œuvre encore davantage ce que nous appelons la présence avancée sur mesure pour la Roumanie dans la région de la mer Noire. De plus, nous adoptons notre posture maritime, nous développons des capacités maritimes. Et au-delà de cette présence accrue dans la région de la mer Noire, avec des forces terrestres, aériennes et maritimes, l'une des décisions les plus importantes que nous avons prise aujourd'hui, c'est de renforcer notre capacité à renforcer les forces, à les déplacer plus rapidement en cas de besoin. À l'OTAN, la dissuasion et la défense ne se basent pas uniquement sur les forces dont nous disposons, par exemple dans la mer Noire, les forces nationales et les forces de l'OTAN dans la région, mais cela passe aussi par notre capacité à renforcer ces forces rapidement. Donc le niveau de réactivité accrue de nos forces, cette initiative de 4x30, le fait que nous ayons triplé la taille de notre force de réponse de l'OTAN, la NRF, le fait que nous améliorons la mobilité militaire, cette vigilance accrue, tout cela nous permet de déplacer des forces plus rapidement vers la Roumanie et la région de la mer Noire si nécessaire. Associated Press. Question. Monsieur le secrétaire général, question de l'Associated Press. Question concernant l'Irak. Vous avez évoqué une centaine de formateurs, mais de quoi s'agit-il plus concrètement? Quel peut être votre niveau d'ambition en Irak vu les circonstances politiques? De plus, le Canada a indiqué qu'il est prêt à envoyer jusqu'à 250 troupes à cet égard. Est-ce que c'est un plafond maximum? Et finalement, est-ce que le partage de fardeau, cela passe plutôt par ce genre de mission-là et non pas les budgets? Le partage de fardeau passe par les budgets, les contributions et les capacités. Ce sont les trois C, donc cash, contribution, capability, financement, contribution et capacité. Bien sûr, il faut mettre ces financements à profit, il faut les utiliser à bon escient pour se doter des capacités et de contribuer à des missions telles que la mission de formation en Irak. Quant à l'importance de cette mission de formation en Irak, nous estimons effectivement que la prévention, c'est mieux qu'une intervention, mais nous devons faire en sorte que Daesh ne puisse jamais revenir sur le devant de la scène. Pour ce faire, nous devons former les Irakiens, renforcer les capacités irakiennes. L'important, c'est que nous allons en Irak former les formateurs, former des personnes qui peuvent, eux, ensuite, former les troupes irakiennes. Nous allons construire des écoles et des académies militaires. C'est ce que nous faisons actuellement en Afghanistan, dans le sillage d'une mission combattante. Pendant des années, nous avons réduit notre présence. Notre présence est désormais une présence de formation et de conseil et d'aide. Nous avons connu de grandes difficultés en Afghanistan, mais au moins les troupes afghanes peuvent endosser la responsabilité de la sécurité dans leur pays. C'est le même concept qui va s'appliquer en Irak. Ce sont certes de pays différents qui connaissent des défis différents, mais la meilleure façon d'empêcher à ce que l'OTAN soit à nouveau obligé de mener des missions de combat en Irak pour combattre Daesh ou d'autres groupes, eh bien, la meilleure manière de l'empêcher, c'est de faire en sorte que Daesh ne puisse jamais se reconstituer. Question. Dans la télévision géorgienne, Monsieur le Secrétaire général, prévoyez-vous une déclaration spécifique pour la Géorgie à la fin du sommet? Et que pouvez-vous dire concernant la déclaration de sommet de Bruxelles qui vient d'être publiée il y a quelques minutes? Qu'est-ce que cela indique par rapport à la Géorgie? Réponse. Nous prévoyons une déclaration avec la Géorgie. Vous pouvez lire cette déclaration lorsqu'elle sera publiée. Dans cette déclaration, bien sûr, nous allons réitérer notre plein soutien pour la Géorgie, soutien pratique et politique. Nous saluons le fait que les Alliés appuient la Géorgie par des efforts de renforcement de capacités, par un centre de formation pour soutenir les réformes, et nous reconnaissons les progrès importants qu'accomplit la Géorgie. Nous reconnaissons aussi les contributions géorgiennes aux opérations et aux missions de l'Alliance. Je peux en dire davantage lorsque nous aurons publié et agréé cette déclaration demain. Question de British Forces TV and Radio. Monsieur le secrétaire général, depuis la fin de la mission combattante en 2014, la tendance nous montre que il y a de moins en moins de forces afghanes et que l'OTAN augmente sa présence au titre de sa mission de conseil de formation et d'aide. À quel moment est-ce que l'on peut dire que cela ne fonctionne pas, il faut un nouveau plan en Afghanistan? Réponse. Moi, je dirais que notre plan fonctionne. nous avons pu remettre aux Afghans la responsabilité pour la sécurité en Afghanistan. C'est une différence notable par rapport à la situation précédente, car dans le passé, nous avions une mission très importante, une mission de combat en Afghanistan avec plus de 100 000 troupes. Il y a certes des difficultés en Afghanistan dans l'incertitude, un problème de terrorisme. Il y a certes des déceptions. Mais au moins, avec les Afghans, nous avons pu construire des forces armées, des forces de sécurité professionnelles, dévouées. Et ces forces sont en mesure de répondre lorsque le Taliban ou d'autres forces mènent des attaques. C'est une avancée majeure. Nous allons maintenir cet appui, former leurs forces d'opération spéciales, par exemple, et leurs forces aériennes. Le président Ghani sera présent ici demain et nous devons voir ensemble comment développer, ajuster et faire évoluer notre soutien aux Afghans. Mais l'idée principale, c'est que au lieu de mener des opérations de combat, nous les aidons à lutter contre le terrorisme et le Taliban. C'est le bon concept. De plus, notre présence se base sur les conditions sur place. C'est la raison pour laquelle nous avons constaté quelques progrès afin de trouver une solution politique. Notre présence en Afghanistan vise justement à créer les conditions nécessaires pour une solution pacifique. Il n'existe pas de solution militaire pour les problèmes en Afghanistan. Nous devons indiquer aux talibans qu'ils ne sauraient pas remporter la situation sur le champ de bataille, mais il faut qu'il y ait des négociations.
Question télévision macédonienne. Monsieur le secrétaire général, en Macédoine, environ 80% souhaitent que notre pays devienne membre de l'OTAN, mais dans le même temps, il y a de nombreuses personnes qui ne souhaitent pas qu'on modifie la constitution pour modifier notre nom. Réponse. Ça va dépendre de la population et des citoyens de l'ex-république de Yougoslave de Macédoine. C'est vraiment un moment historique. Soit ils soutiennent cet accord et ils peuvent se joindre à l'OTAN, soit ils rejettent cet accord, mais dans ce cas-là, ils ne pourront pas adhérer à l'OTAN. Le pays ne peut pas devenir membre de l'OTAN sans changer son nom. C'est comme ça. C'est une décision que les citoyens auront à prendre. Je salue cet accord et nous avons clairement indiqué, nous l'avons décidé d'ailleurs aujourd'hui, que les pourparlers d'adhésion seront lancés et qu'une fois que toutes ces procédures internes auront été achevées, y compris la modification constitutionnelle visant à mettre en œuvre cet accord portant sur le nom avec Athènes, eh bien, à partir de ce moment-là, l'ERIM pourra devenir le 30e membre de l'OTAN avec son nouveau nom, la République de Macédoine du Nord. Mais ce pays ne peut pas devenir membre de l'OTAN si le nom n'est pas changé. C'est aussi simple que ça. Et ce sera aux citoyens du pays à prendre ce choix, à faire ce choix. Question, Jonathan Swan de Max. Monsieur le secrétaire général. Plus tôt, vous avez dit que vous souhaitiez en savoir un peu plus au sujet de la réunion à venir entre M. Trump et M. Poutine. Est-ce qu'il a donné des indications s'agissant de sa concession au niveau de la Crimée? Et lorsque vous avez discuté avec le président Trump, est-ce qu'il vous a indiqué qu'il estimait que les États-Unis avaient trop de troupes en Europe? Réponse. Nous allons aborder la question de la Russie lors de notre dîner, mais j'en ai parlé quand j'ai déjeuné ce matin avec le président Trump. Mais comme je vous l'ai dit, c'est au programme du dîner de ce soir en tous les cas. Mais évidemment, nous en avons parlé lors du petit déjeuner ce matin. Mais tous les alliés, et cela est indiqué dans la déclaration que nous avons approuvée aujourd'hui, donc aucun allié ne reconnaît cette annexion. Aucun allié ne reconnaîtra cette annexion illégale de la Crimée. les alliés sont unis sur cette question. C'est une position que tous les alliés partagent. Et d'ailleurs, c'est l'annexion illégale de la Crimée qui a fait que l'OTAN a renforcé sa présence militaire dans les pays baltes, en Pologne, dans la région de la mer Noire. Ces mesures sans précédent depuis la guerre froide sont arrivées suite à cette annexion de la Crimée. Et nous indiquons clairement que ce type d'action est inacceptable. Et nous continuons à soutenir l'Ukraine. Nous apportons un soutien politique, un soutien pratique. Je vais d'ailleurs rencontrer le président Porochenko demain. S'agissant de la présence américaine en Europe, ce que nous avons pu constater, c'est que les États-Unis ont renforcé cette présence en Europe. Après la guerre froide, les États-Unis ont réduit leur présence militaire. Le dernier char américain a quitté l'Europe en 2013. Or, les États-Unis sont désormais de retour avec une brigade blindée. Et depuis l'arrivée au pouvoir du président Trump, le financement américain pour la présence américaine militaire en Europe a augmenté de 40%. Je pense que là, les chiffres parlent d'eux-mêmes et je suis convaincue que les États-Unis sont engagés en Europe. Question. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Avant cette conférence de presse, certains dirigeants de l'OTAN ont partagé leurs impressions de la réunion et le président Trump aurait demandé aux alliés d'arriver à 4% du PIB pour ce qui est des dépenses de défense. Réponse. Eh bien, nous nous sommes engagés à augmenter les dépenses de défense pour arriver à 2% du PIB. Je pense que ce serait déjà une première étape. Alors, commençons à respecter cet engagement-là déjà. Et si on revient à 2014, si vous aviez demandé à l'époque aux dirigeants ou aux observateurs si les alliés européens étaient en mesure de réaliser les progrès qu'on a pu constater ces 4 dernières années, je pense que bon nombre de personnes auraient été sceptiques. Or, on a inversé la tendance, les budgets sont à la hausse, nous avons constaté l'augmentation la plus importante depuis la fin de la guerre froide l'année dernière. Et d'ailleurs, en mai dernier, nous nous sommes mis d'accord sur l'élaboration de plans nationaux qui sont des outils utiles pour s'assurer qu'il y ait véritablement une mise en œuvre de cet engagement en matière de dépenses de défense. Et ces plans nationaux ont vraiment fait leur preuve, car les alliés ont présenté ces plans pour expliquer étape par étape comment ils allaient atteindre cet objectif des 2%. Je dirais donc que l'OTAN a bien répondu présente. Il y a des désaccords, certes, mais l'OTAN a pris des décisions et l'OTAN respecte ses engagements. Et à long terme, ce qui est important, ce sont les questions de fond et nous obtenons actuellement des résultats. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons demain. Merci, au revoir.